Hier, la Commission européenne a présenté un plan inédit pour tenter de contrer la puissance croissante des géants du numérique, les GAFA notamment, Google, Amazon, Facebook, Apple. Dans ce plan, il y a des obligations et des interdictions à respecter. Il y a également des sanctions présentées comme dissuasives. L'enjeu pour l'Europe est à la fois crucial et délicat. Il s'agit de protéger ses consommateurs et de leur offrir les meilleurs services tout en arrivant à stimuler la concurrence et à contrôler le pouvoir grandissant des GAFA. Rien que ça. Les GAFA qui sont donc dans le viseur des États et pas seulement européens, même les États-Unis s'attaquent à eux. Est-ce qu'on assiste à un tournant et peut-on réellement contrôler ces entreprises géantes? Pour répondre à ces questions, notre invité, Joël Toledano. Bonjour, Joël Toledano.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste de la régulation des marchés. Si vous nous voyez sur Europe1.fr, je montre le livre dont vous êtes l'autrice, GAFA, reprenons le pouvoir. C'est aux éditions Edil Jacob. Avant de parler dans le détail du plan, question générale, est-ce qu'il était temps que la Commission européenne réagisse face aux GAFA?
C'est très bien qu'elle réagisse face aux GAFA et c'est un vrai tournant qui est en train de se produire.
Parce que je pose la question à dessein parce que la dernière législation datait de l'an 2000, ce qui est une éternité dans le numérique, 20 ans.
Oui, mais si je ne veux pas ironiser, ça met souvent tellement de temps de mettre en place une législation en Europe que ça ne se fait pas tous les 4 matins.
Vous avez parfaitement le droit d'ironiser ici dans cette émission. Vous écrivez dans votre livre « Google et Facebook ». En résumé, Google et Facebook ont le pouvoir d'ExxonMobil, du New York Times et de JP Morgan Chase, de la NRA et de Boeing réunis. En outre, tout ce pouvoir combiné est entre les mains de 3 personnes seulement. C'est dangereux.
Il faut contrôler.
Pas plus que ça. C'est pas plus dangereux que ça.
Oui, c'est dangereux. Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. Donc après, il faut voir au cas par cas. Et oui, bien sûr, il faut pas laisser faire n'importe quoi.
Parce qu'ils font pas seulement de l'informatique. Ils ont des milliards et des milliards d'euros de cash. Ils investissent dans des secteurs clés, des secteurs vitaux, comme la santé, comme la défense. Mmh. C'est pas seulement du 2.0.
Oui, absolument. Et ce qui est préoccupant, si vous voulez, c'est que à l'intérieur de leur monde économique, parce qu'ils ont chacun d'entre eux des empires à l'intérieur desquels, ils font la loi. Et ça, c'est problématique.
Ils font la loi?
Oui, ils font la loi.
Alors ça va être aux États de faire la loi, au stricto sensu.
C'est l'un des cœurs du problème, c'est effectivement de reprendre le pouvoir sur ces acteurs qui ont mis en place des systèmes où ils faisaient la loi.
Alors, pour bien comprendre le sujet, on va s'intéresser au projet de la Commission européenne. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante Isabelle d'Europe 1 à Bruxelles. Et c'est de loin la plus importante offensive de Bruxelles contre le pouvoir des GAFA qu'on a vu hier.
Oui, parce que ça fait longtemps que l'Europe essaye de leur mettre des limites, mais aujourd'hui ça marche mal. À l'heure actuelle, la Commission européenne attaque surtout via ses pouvoirs en matière de concurrence. En fait, elle ouvre des enquêtes. Par exemple, en ce moment, elle enquête sur Amazon qui pille les données des entreprises qui vendent leurs produits sur sa plateforme. Comme ça, Amazon vend aussi mieux ses propres produits. Google a aussi été visé par des enquêtes, a même été condamné, mais tout ça, ça prend des années et c'est pas assez dissuasif. Et en plus, vous l'avez dit, la législation européenne sur le commerce en ligne, elle a 20 ans. À l'époque, elle visait à aider ce secteur à grandir, mais sans créer trop d'obligations. Donc là, on change de braquet avec vraiment une idée directrice, c'est que l'espace numérique, c'est une nouvelle dimension de notre monde, de nos sociétés, et que comme l'espace terrestre, la route, le maritime, l'aérien, il doit avoir ses règles.
Et avec ce principe en tête, Bruxelles a donc dégainé hier 2 projets de loi.
Oui, alors deux réglementations et 2 axes. Alors premier axe, on cible les contenus, ce qu'on trouve sur Internet, des fake news en passant par la haine en ligne, les attaques racistes, etc. Tout ce qui est interdit dans la vraie vie devra l'être dans le monde virtuel. Et donc il faut que les plateformes surveillent, retirent ce qui est interdit, sinon elles risquent des amendes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et en cas de manquement répété, ça peut même aller jusqu'à l'interdiction d'opérer en Europe. Premier axe. Deuxième axe, c'est d'essayer de créer un marché plus équilibré. Et donc là, le deuxième texte, il cible vraiment spécifiquement les géants, les gatekeepers, on dit en anglais, c'est ceux qui ont les clés de l'Internet, donc avant tout les GAFA. La Commission fixe des règles en amont pour éviter les monopoles, faciliter la concurrence, par exemple, interdit de piller les données, comme le fait Amazon. Et là aussi, il y a des sanctions prévues, des amendes et même la possibilité de démanteler des entreprises sur le marché européen. Voilà, vraiment l'objectif là, c'est d'obliger les entreprises du numérique à sortir de l'adolescence et de ses excès pour devenir des adultes responsables.
Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Horry, en direct de Bruxelles pour Culture Média. Vous êtes notre correspondante d'Europe à Bruxelles. Vous faites un travail absolument formidable. Il faut mettre de l'ordre dans le chaos actuel, disait hier la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager. Et pour cela, donc deux textes. Le premier qui traite de la concurrence, le second qui régule les contenus. Je me tourne vers vous à nouveau, Joël Taleh-Dano. Est-ce que la Commission vise juste avec ce fusil à deux coups ?
Elle vise les vrais sujets,
ouais.
C'est-à-dire les problèmes d'un côté de responsabilité et de responsabilité des acteurs, ou directement via les règles qu'elles imposent, ou via leurs algorithmes. Donc, vrais problèmes qui concernent d'ailleurs pas seulement les plus grands.
Ouais.
Et puis, elle vise aussi les problèmes de concurrence. Et dans ce cadre, elle vise bien. Je suis pas sûr qu'elle vise au centre.
C'est-à-dire, concrètement.
Concrètement, alors il y a, je vous l'ai dit, c'est formidable d'y aller. Maintenant, le problème, c'est que si on avait sorti ça, alors il y a 10 ans, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu depuis, c'est-à-dire la constitution de ces empires numériques dont je parlais il y a un instant.
Ouais.
Et donc, maintenant, ce qu'on va avoir, c'est un outil qui va empêcher que les pratiques auxquelles on a assisté se reproduisent. C'est parfait.
D'accord.
Mais je ne suis pas absolument sûr que cet outil va nous permettre de revenir en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire que ces empires soient, si ce n'est démantelés, au moins plus ouverts, qu'eux aussi, ils ouvrent leurs frontières et ils soient plus les maîtres de leur monde.
Mais le démantèlement, vous n'y croyez pas, ou vous voulez dire que ça ne sera pas suivi d'effet? Je veux dire que quand bien même ces entreprises seraient démantelées et découpées en morceaux, leur action serait la même.
Non, si vous voulez, pardon de vous le dire comme ça, mais il faut arrêter de parler de ces entreprises comme si elles étaient toutes pareilles.
D'accord,
donc,
allez-y.
On emploie le mot démantèlement comme une sorte de baguette magique à partir de laquelle, après, le monde serait meilleur. Selon les entreprises que vous regardez, le démantèlement peut avoir du sens. C'est le cas de Facebook.
Ouais.
C'est dans mon esprit.
C'est-à-dire Facebook, il voudrait la séparer de ses filiales.
Mais pas eux. Enfin, ça va. Si ça se fait, ça ne se fera qu'aux États-Unis.
D'accord.
Certainement pas chez nous.
D'accord.
Mais ça aura du sens au plan concurrentiel. Ça pourra remettre de la dynamique. Ça pourra permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Pas tous. Hein,
ouais.
Y a d'autres problèmes qui ne seront pas réglés autour de la publicité, etc. Mais si vous parlez de démantèlement à propos de Apple, si vous parlez de démantèlement à propos d'Amazon ou de Google, en réalité, on sait très mal où il faudrait démanteler pour que ça apporte des vraies bonnes solutions. L'idée, c'est pas de les punir. L'idée, c'est de redynamiser ces marchés numériques que ces acteurs ont verrouillés et de ne plus les laisser être les maîtres du monde. Mais pour autant, ils nous ont apporté des services qu'il ne s'agit certainement pas de faire disparaître.
Et nous les apportent toujours. Vous restez avec nous. On n'a pas encore parlé de la haine en ligne et de quelque chose, un mot qui fait très peur aux gens, les algorithmes. Vous restez avec nous. Joël Taleh-Dano, on continue à parler de cette offensive européenne contre les GAFA. À tout de suite.
Europel.
En compagnie de Joël Taleh-Dano, elle est économiste, elle publie chez Odile Jacob Reprenons le pouvoir, mais le surtitre c'est GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. On parlait de la décision prise de lutter contre les GAFA prise par la Commission européenne hier. Vous parlez des algorithmes, vous dites qu'il faut les détricoter comme ceux de Twitter ou de Facebook. En quoi sont-ils dangereux? En quoi sont-ils sournois?
Il y a plein de questions derrière les algorithmes et leur évolution. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, je crois que c'était précisément en 2018, Google a changé son algorithme 3200 fois.
Où est le problème pour le consommateur?
Bah écoutez, il ne s'en est peut-être pas toujours rendu compte, mais du jour au lendemain, il y a des propositions d'informations, enfin des réponses qui disparaissaient.
Ouais.
J'ai envie de dire, pour la bonne cause ou pour la mauvaise, dans cette idée que ça répond à vos questions. Alors c'est derrière cette disparition qu'on a eu le fameux cas qui a fait couler tellement d'encre et c'est pas fini, de Google Shopping, c'est-à-dire en gros comment au début des années 2010 Google, parce qu'il avait une autre offre à faire, a fait disparaître, si je puis dire, dans les dernières pages, les comparateurs de prix.
Ah mais oui, les comparateurs de prix, ça existait. On voulait acheter quelque chose et on vous disait où est le moins cher, où le trouver. Ça a disparu.
Bah voilà. Ou alors, peut-être que c'est à la 52e ligne que vous allez jamais voir.
Et comme on dépasse jamais, paraît-il, la première, voire la deuxième page, on va jamais à la 50e page.
Donc, voilà... Et donc, mais parfois, Google a, entre guillemets, raison. C'est à eux de décider. Parce qu'il améliore la qualité des réponses. Le problème, c'est que vous avez ça. Quand vous avez eu, prenons un exemple totalement différent, sortons des GAFA, Booking.
Ouais.
Booking.com
pour louer des hôtels.
Absolument. Il y a eu tout un débat parce qu'ils avaient une certaine politique de prix sur laquelle je pourrais revenir si vous souhaitez, mais laissons-la de côté, où on a... En fait, plus permis à Booking d'imposer un certain nombre de conditions aux hôteliers. Et puis quand après vous discutiez avec les hôteliers, ils vous disaient « Ouais, mais moi je sais pas ce qui se passe si je disparais pas de l'algorithme, si je continue pas à appliquer les règles. » Donc vous avez, je vous donne deux exemples, on pourrait multiplier...
J'ai compris, une sorte d'imposition de fait de ce modèle.
Derrière les algorithmes, il peut y avoir une politique maison, si vous voulez.
Évidemment, et on ne sait jamais quel est le principe des algorithmes et comment ils sont faits.
Et on le sait très mal. Et dans ce cadre-là, il y a des problèmes qui se posent et qui fait que pour la confiance des consommateurs, pour que les entreprises qui utilisent qui sont derrière ces algorithmes, il faut plus de confiance, il faut plus de loyauté dans tout ça.
Et donc qu'ils soient transparents.
Et il faut qu'ils deviennent transparents.
Je me souviens du livre de Judith Duportail, qui est une journaliste et qui voulait connaître l'algorithme de Tinder, parce qu'elle rencontrait jamais les personnes qu'elle souhaitait rencontrer sur Tinder.
Je me souviens.
Et elle n'a jamais réussi à obtenir ça. Alors il y a les algorithmes, il y a également la collecte des données personnelles qui permettent notamment de cibler les publicités. Vous avez vu que les chaînes françaises passent des accords avec des FAI. Est-ce qu'il faut accentuer la lutte contre cette collecte? Est-ce qu'il faut réguler la publicité ciblée? En quoi est-elle nocive, si tant est qu'elle l'est? Je veux dire, moi mes enfants sont grands, je serais pas mécontent de ne plus voir de publicité pour les couches-culottes qui ne concernent pas. Pourquoi c'est dangereux la pub ciblée selon vous ?
Alors comme toujours dans ces sujets-là, il y a plusieurs problèmes et on va essayer de les distinguer. Quand je parle de réguler la publicité ciblée, je parle de réguler ce monde que tout le monde qualifie d'opaque. C'est-à-dire que au fond, vous avez de la publicité soit quand vous êtes sur Google ou Facebook ou bien quand vous êtes sur le site d'Europe 1.
Ouais.
Quand vous êtes sur le site d'Europe 1, alors dans ce cas particulier, je ne connais pas bien.
Il est très très bien fait.
Il est sûrement très bien fait, mais ce n'est pas à ça que je faisais référence. Mais souvent, pour faire de la publicité sur le site d'Europe 1, on passe par des tas d'intermédiaires. Et à la fin, Europe 1, dans le meilleur des cas, il a 50% de ce qu'a payé un annonceur. Et les autres 50%, ils sont répartis. Alors souvent, ça va aller chez ce qu'on appelle des ad tech.
Ouais.
Et très souvent, ça va aller chez Facebook. Oui, je vous vois ouvrir, écarquiller les yeux. Donc le partage de la valeur dans ce cas-là pose problème, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça se fait comme ça. Et c'est évidemment le problème quand vous faites de la publicité sur les sites eux-mêmes, sur Google ou sur Facebook. Vous avez un certain nombre de pratiques qui sont remises en cause par beaucoup de professionnels. Et de la même façon qu'on a eu une loi Sapin, si vous en souvenez,
oui.
C'est
une loi pour réguler la publicité, notamment dans la presse écrite.
Et la transparence.
Il y
a un problème de ce côté-là. Il y a plusieurs sujets où il faut, là encore, mettre de la transparence.
Dans une interview donnée hier à l'Opinion, vous dites « Si on ne fait que du droit face aux géants du numérique, on va se faire balader. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On peut faire que du droit avec eux, on ne va pas les attaquer à la machette.
ce que j'entends, c'est que, si vous voulez, le sujet, il est économique.
Ouais.
Et donc... Le droit, il a un mode de fonctionnement qui est formidable et qui est garant des libertés, etc., etc. Mais il faut avoir un objectif économique.
Donc des sanctions économiques.
Donc des sanctions économiques et une capacité à évoluer, à être rapide, à ne pas rester sur la règle de droit, mais à la faire évoluer en fonction des situations. Parce que sinon, effectivement, on va bloquer le système. Et ça... C'est pas possible dans le monde du numérique. Il faut avoir les institutions du 21e siècle qui correspondent aux algorithmes dont on parlait tout à l'heure, à ces mondes de données qui permettent d'agir vite et qui permettent effectivement de favoriser la dynamique.
Je vais me faire l'avocat des GAFA. Si on les régule, ce serait les affaiblir, disent ceux qui les défendent, et donc renforcer de fait les autres géants du numérique, les Chinois qui arrivent. On les appelle les BATIC, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pertinent comme analyse ?
Je crois pas, je crois que c'est un vrai argument de ceux qui sont en place. À partir du moment où on a des règles performantes pour les transformer en entreprises citoyennes normales, et ben on fera pareil avec les autres.
Vous avez vu que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union européenne, ce sera dans 2 semaines a priori.
Ça, c'est pas un scoop.
C'est le Brexit, c'est pas un scoop, mais ça traîne. Sauf que ce qui est peut-être un scoop, c'est que lui également s'attaque aux GAFA. Le gouvernement de Boris Johnson a également présenté un projet hier avec des obligations, des sanctions similaires à celles dévoilées à Bruxelles. Le texte britannique prévoit en plus des sanctions pénales contre les dirigeants des entreprises concernées. Est-ce qu'un État peut affronter seul les GAFA ? Et est-ce que c'est un bon biais d'attaque que de cibler les dirigeants eux-mêmes, selon vous, Joël Toledano ?
Alors, je pense que sur le sujet de la responsabilité, cibler les dirigeants eux-mêmes, c'est un bon axe d'attaque. Parce que effectivement, sinon, on a un vrai risque que cette responsabilité se dilue.
Donc, la Commission européenne serait bien inspirée de s'inspirer de l'exemple britannique.
Écoutez, c'est plus anglo-saxon, ça se pratique aux États-Unis depuis longtemps. Je suis pas capable de vous dire pourquoi exactement, mais c'est pas une pratique européenne. Donc, ce serait peut-être pas possible là, mais je pense que oui, la responsabilité personnelle dans un certain nombre de cas pour bloquer des comportements. Deuxièmement. Sur ce que font les Britanniques, effectivement, on peut être sceptique sur leur capacité à faire bouger tout seul les GAFA. Par contre, il y a quelque chose dans leur projet qui est formidable, c'est qu'en plus des règles telles qu'on nous les a proposées hier par la Commission européenne, ils disent qu'ils veulent réintroduire de la concurrence et qu'ils veulent s'en donner les moyens. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on devrait s'inspirer.
Dernière question un peu de géostratégie. Est-ce que le fait que ce soit Biden qui arrive à la Maison-Blanche et non plus Trump va changer quelque chose sur ce dossier spécifiquement ?
Je ne sais pas bien si ça va changer quelque chose, parce qu'il faudra bien avoir des accords bipartisans. Donc, il y avait des deux côtés des volontés ou des velléités de faire bouger les choses. Sur la partie responsabilité, les deux côtés sont absolument d'accord pour le fait de dire qu'il faut changer les choses. Pour l'instant, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur le quoi. Donc, ouais. Bon. Mais il devrait y avoir... Je pense que des deux côtés, il y a aussi le fait qu'ils ne voudront pas casser leurs géants parce qu'ils sont là dans la guerre économique. Oui, un peu de changement, probablement plus pro-consommateur.
On verra bien. Merci beaucoup Joël Toledano. Je rappelle le titre de votre dernier livre, GAFA, reprenons le pouvoir. C'est publié chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous en direct. Sur